France Musique. France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre. Suite de mon exploration, ma petite exploration du poème symphonique. Avant-hier, on était avec un Hongrois, hier avec des Tchèques, voici la France. En France, la symphonie a mis du temps à s'imposer. En revanche, très tôt, les Français ont été attirés par la musique dite à programme, inspirée par un argument extra-musical. C'est le cas de César Franck, qui a d'ailleurs composé un « Ce qu'on entend sur la montagne » comme Liszt, mais son poème symphonique le plus connu, c'est « Le chasseur maudit, encore la chasse », inspiré par une ballade de l'écrivain allemand Gottfried August Bürger. Un aristocrate organise une chasse, au lieu d'aller à l'église, il bouscule tout sur son passage, jusqu'à ce qu'il soit maudit et condamné à chevaucher pour l'éternité, poursuivi par des démons. Ces corps de chasse évoqués par César Franck dans son Chasseur maudit sont dans la droite ligne de la musique romantique. On y entend des dettes envers Berlioz comme envers Wagner. C'est une des caractéristiques de Franck qu'on ne peut réduire à une identité nationale. Ici, c'était Ernest Ansermet, l'orchestre de la Suisse romande. Alors, de Franck, on a aussi les Éolides, les Djinns et Psyché, une œuvre très développée et d'une belle émotion. Un autre Français qui a fait beaucoup plus que s'essayer au poème symphonique, c'est Camille Saint-Saëns. Sa danse macabre est très connue. Phaéton l'est beaucoup moins, mais là, j'aimerais rendre justice au rouet d'Omphale. Encore un rouet, après le rouet d'or de Dvorak, vous voyez qu'il y a des thèmes communs à cet univers romantique de contes et légendes. Cette fois, la source est dans Victor Hugo, qui reprend la légende d'Héraclès habillé en femme, filant la laine au pied de la reine de Lydie qu'il a réduit en esclavage. Vous entendrez le mouvement perpétuel du rouet dans une orchestration aussi diaphane et légère que celle du chasseur maudit était chargée. C'est l'Orchestre National de France et c'est Seiji Ozawa.
Thank you.
Alors César Franck, Camille Saint-Saëns, j'aurais pu vous parler de Vincent d'Indy, à qui on doit pas mal de poèmes symphoniques comme Wallenstein, Ishtar ou La forêt enchantée. J'aurais pu vous parler de Viviane d'Ernest Chausson ou de la Lénore d'Henri Duparc, mais je vous ferai un jour une émission sur les Wagneriens français. Là, j'aimerais rendre justice à quelqu'un qui est beaucoup trop absent des programmes. C'est Charles Quéclin, né en 1867 et qui a fait l'essentiel de sa carrière au XXe siècle, un professeur et théoricien de premier ordre, mais surtout un compositeur absolument singulier, d'aucune école, très à l'écoute de toutes les inventions modernes, comme le cinéma ou en musique les ondes Martenot, et surtout audacieux dans son écriture, dans ses harmonies. Et c'est aussi un maître de l'orchestre. On lui doit d'ailleurs un imposant traité d'orchestration. Alors, selon préambule, pour en arriver à son étonnant cycle de poèmes symphoniques, le Livre de la Jungle, dont, alors peut-être pas le plus connu, mais le moins inconnu, est Les Bandarlogs, du nom des singes de Kipling. Vous savez, qui jacassent sans cesse, qui se moquent de tout. Ils sont un peu ridicules, mais aussi très attachants par leur côté espiègle, indiscipliné. Écoutez avec quel incroyable foisonnement orchestral Quéclin les évoque. C'est très moderne, occasion de rappeler que le poème symphonique pour les compositeurs est souvent l'occasion d'expérimenter là où la forme de la symphonie est plus contraignante. Quelle fantaisie et quelle modernité dans l'écriture de Charles Quéclin. C'était un extrait des Bandarlogs Antaldorati et l'orchestre symphonique de la BBC. Alors vous voyez que le poème symphonique a été très bien servi par les Français, mais le chef-d'œuvre du genre, c'est aussi une des pièces les plus populaires du répertoire, et pas seulement grâce à Mickey dans Fantasia, c'est bien sûr l'apprenti sorcier de Paul Dukas. Merveilleux compositeur Paul Dukas qui laisse, comparativement à d'autres, peu d'œuvres, car il n'acceptait que la perfection. L'apprenti sorcier, c'est une merveille de composition. La source est littéraire, il s'inspire d'une ballade de Goethe, où le jeune disciple d'un magicien veut enchanter un balai pour qu'il fasse le ménage à sa place. Mais il perd le contrôle de sa créature, l'eau monte, l'apprenti tente de détruire le balai, mais celui-ci renaît, Seul le magicien saura mettre fin au charme. On va l'écouter en entier cette fois, hein, sans que je prenne la parole. Mais avant cela, j'aimerais vous donner quelques clés d'écoute, car il y a juste un petit nombre de thèmes suffisamment malléables pour être modifiés. Vous connaissez le principe maintenant. Alors, ce qu'on entend d'abord, c'est le thème du sortilège, aux cordes très doux. Se dessine alors un thème à la clarinette, au hautbois, à la flûte. Ici, il est très lent, c'est la torpeur. Cette torpeur est réveillée par un autre thème très vif, c'est celui du jeune apprenti, au bout duquel la trompette va clamer notre thème du début, mais qui n'est cette fois plus du tout endormi, mais très affirmé. Ce qui débouche sur un motif langoureux à la flûte, puis au cor bouché, retenez-le, vous l'entendrez beaucoup. Retenez aussi le thème de la formule magique aux trompettes. Et c'est alors le moment le plus célèbre, incarné par trois bassons et un contrebasson. Le ballet prend vie progressivement par de petits soubresauts et finalement joue le thème entendu depuis le début, mais cette fois avec un rythme très marqué. C'est le ballet qui commence son travail. Revoici aux cordes le sortilège du début, vif cette fois, c'est la montée de l'eau et les cors font le ballet. Pour l'instant, tout va bien, au point que l'apprenti saute de joie. Voici le thème de la joie de l'apprenti, joué par les bois avec un glockenspiel aux sonorités de clochettes scintillantes. Le thème de la joie de l'apprenti et celui du ballet vont s'entrecroiser, mais en mineur, y aurait-il de l'inquiétude ? C'est que l'eau monte de plus en plus, les cordes jouent sous le ponticello près du chevalet avec cette sonorité rauque toujours inquiétante. Les cors jouent le ballet mais les violons font le flux et le reflux des vagues. L'apprenti veut tout arrêter, mais il a oublié la formule magique à la trompette. C'est alors qu'il décide de briser le ballet avec une hache. le ballet est coupé en deux, mais il reprend vie. Pire, il y en a deux maintenant. Le premier au contrebasson, rejoint par un second à la clarinette basse. C'est un cauchemar pour l'apprenti et au point culminant de la panique, c'est finalement le retour du maître sur le thème de la formule magique, toujours à la trompette. Tout est sous contrôle. Le ballet essaye bien de se reformer par quelques soubresauts, mais c'est le retour au calme du début, avec le thème du sortilège enrichi d'un solo d'alto nostalgique. Vous avez les clés, maintenant, on peut l'écouter en entier, cet apprenti sorcier. C'est Georges Prêtre qui dirige l'Orchestre national.
Thank you. Thank you.
Quelle merveille d'orchestration et de composition, cet apprenti sorcier de Paul Dukas, où rien n'est laissé au hasard. Georges Prêtre dirigeait l'Orchestre National de France, et puis il y en a deux qui ne laissent rien non plus au hasard, ce sont Marie Groux et Benjamin Vignal, qui réalisaient et mixaient mon petit guide d'écoute, mais aussi toute cette émission, qui n'est pas finie, car demain c'est Richard Strauss, sacré morceau. C'est à midi, sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.